présente maintenant nos deux intervenants de ce soir, Roberta Sessoli, qui est à Florence. Son parcours est le suivant: doctorat en 1992 en magnétisme moléculaire. En 2001, elle a reçu le prix de la meilleure jeune chimiste italienne et elle a reçu avec son équipe en 2002 The Agilent Technology Europhysics Prize, donc qui est un prix comme son nom en anglais l'indique. Son activité de recherche a d'abord porté sur la caractérisation structurale et magnétique d'aimants moléculaires. Son travail est aujourd'hui centré pour l'essentiel sur l'étude de la bistabilité magnétique des matériaux moléculaires. Plus récemment, elle s'est tournée, j'abrège parce que de toute manière, sa communication nous montrera de quoi elle s'occupe, elle s'est tournée plus récemment vers l'organisation d'aimants moléculaires sur surface. Elle est co-auteur d'un livre publié par Oxford University Press et de plus de 200 articles, parmi lesquels des contributions publiées par Nature et Science. Quant à Michel Verdaguer, il est professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Il a reçu des prix importants et prestigieux. En 1997, le lauréat du prix de l'Académie des sciences Paul Pascal. 2003, lauréat du prix de la Société française de chimie. 2004, lauréat du prix de la Société royale espagnole de chimie. Il est spécialiste de magnétisme moléculaire et de spectroscopie d'absorption des rayons X. Il est internationalement connu pour son approche des matériaux magnétiques moléculaires, de la chimie quantique aux applications. Il consacre de très nombreux efforts à la coopération scientifique internationale et à la vulgarisation scientifique, comme nous pouvons nous en féliciter, nous tous, ici. Bon, je ne parlerai pas de ses publications savantes et scientifiques. J'en signalerai juste une qui est à paraître très prochainement chez Oxford University Press, en collaboration avec Jean-Pierre, je suppose, Launay, Electrons in Molecules, From Basic Principles to Molecular Electronics, qui est à apparaître chez Oxford University Press. Donc je vais laisser à nos deux intervenants qui s'organisent, qui s'auto-organisent, je leur laisse le temps nécessaire pour qu'ils nous présentent tout ce qu'ils ont à nous dire, pas forcément deux fois 50 minutes, mais vous êtes organisés puisque vous connaissez le principe. Puis ensuite, quand nous aurons profité de tout ça, y compris, j'espère, des expériences, eh bien, ou au moment des expériences, je ne sais pas, je reviendrai pour les questions. Voilà, merci.
Bonsoir.
Bonsoir. Ça marche.
Bien, lorsque nous avons suggéré de vous parler ce soir du magnétisme des molécules, avec in fine une question vers le stockage de l'information sur une molécule, c'est-à-dire sur une molécule unique, eh bien, nous avions en tête
l'électronique marche jamais.
Trois ou quatre choses tant que les ordinateurs ne seront pas faits avec des molécules.
Ah oui, ça ne sera pas pareil.
Voilà. En fait, je n'ai pas la poigne qu'à Roberta. D'abord, deux ou trois mots pour commencer, pour essayer de voir ensemble comment le magnétisme vient aux molécules. Et là, il y aura un tout petit peu de mécanique quantique élémentaire. Ensuite, essayer de voir que le magnétisme peut se trouver là où on ne l'attend pas, autour de nous. Et nous aurons là ici quelques expériences. Dans une troisième partie, nous essaierons de vous montrer que le chimiste, en fait, est un créateur et qu'il adore jouer au Lego en partant de briques élémentaires pour faire des matériaux magnétiques moléculaires utiles. Et enfin, nous essaierons de vous montrer où nous en sommes sur le chemin du stockage de l'information sur une molécule. Toujours la poigne.
Là.
Ici, là. D'accord. Voilà, comment l'homme vient aux molécules et l'esprit au professeur. Donc les molécules autour de nous, et on va essayer de découvrir le pari moléculaire. Il suffit de prendre un avion et d'avoir une photo de Paris, pour découvrir immédiatement qu'on a un certain nombre de solides, de liquides, de gaz, mais que parmi ceux-là, il y a eh bien, dans l'air du diazote, du dioxygène, mais aussi de l'eau. Au niveau de la Seine, le dioxygène est produit par les bois alentours, au détriment du dioxyde de carbone, et puis aussi des choses moins souhaitables, comme le dioxyde de carbone. Premièrement, d'où vient le magnétisme ? Eh bien, pour l'essentiel, cette conférence sera fondée sur le fait que le magnétisme vient de l'électron. L'électron, c'est un constituant élémentaire de l'atome. On a ici l'atome d'hydrogène, par exemple, un noyau, un électron, et l'électron tourne autour du noyau. L'électron a une charge négative, le noyau une charge positive. Et ce mouvement de l'électron autour du noyau, qui génère un courant, génère en même temps le champ magnétique associé, et donc un moment orbital. En plus, l'électron a un moment intrinsèque de spin, un magnétique intrinsèque de spin, qu'on appelle le spin, et que l'on peut assimiler à une toupie qui tourne, même si c'est une approximation vraiment très, très grossière. Et donc ce moment intrinsèque de spin, on l'a vu dans cette semaine, est quantifié. Il peut être vers le haut ou il peut être vers le bas. Et il peut prendre deux valeurs, plus ou moins un demi, vers le haut ou vers le bas. Et pour l'instant, on va oublier le spin du noyau et le moment orbital. On va uniquement raisonner sur le spin. Cependant, pour décrire l'électron, objet quantique, et l'atome, objet quantique, on aura besoin de deux autres ingrédients. D'une part, une fonction d'onde qui décrira complètement les propriétés de l'électron, et à cette fonction d'onde, ou orbitale, sera associée une énergie. Et pour ranger les électrons, qui a énormément d'électrons dans un atome en général, autant d'électrons que de protons dans le noyau, donc il y a des règles, et on va en voir ensemble deux ou trois, de façon à ce qu'on prenne conscience que nous sommes dans un monde quantique qui est basé sur le discontinu, sur le quantifié, contrairement à notre monde ici qui repose sur le continu. Et si vous avez compris cette équation de Dirac, vous avez là ici M. Einstein qui a proposé la relativité, Langevin qui l'a beaucoup diffusé en France, et puis Paul Dirac qui a écrit cette équation et qui a eu le prix Nobel pour cela un peu plus tard, en 1933. Alors si vous avez compris ça, on peut s'arrêter et rentrer chez nous. Sinon, on peut essayer d'expliquer les choses, et je n'essaierai pas d'expliquer quelques termes que ce soit de cette équation. Donc voilà, on en retiendra que l'atome, on peut le décrire avec cette équation qu'a écrit M. Schrödinger, qui garde son nom, avec la fonction d'onde phi et E, l'énergie. Et puis, que dans l'atome, les choses sont organisées avec des nombres, c'est quantifié, donc on aura ici quatre nombres quantiques, N, L, M et S. Prenons l'atome d'hydrogène, un électron, un spin. On a ici, en haut le nombre quantique principal N et le nombre quantique secondaire L. Et voyons comment s'organisent les choses. Et après, nous aurons la fonction d'onde orbitale. Au niveau numéro 1, le plus bas en énergie, eh bien, on a une orbitale. Et puis, on a cette espèce de sphère qui représente de manière angulaire la fonction d'onde de l'électron. Et on l'appelle 1S. Au-dessus, on a des niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et chaque fois, on a des niveaux d'énergie, de plus en plus de niveaux d'énergie, de plus en plus compliqués. On a des fonctions d'onde, des orbitales. Et vous voyez ici que sur le niveau 2, on a un signe moins, un signe plus. Cet orbital, c'est une fonction mathématique, qui est solution d'équation qu'on a vue tout à l'heure. Et ceci est très important. Il y a un lobe négatif, un lobe positif, alors que dans la première, tout était positif. Et au-dessus, on continue. Voilà. Et en particulier, on s'intéressera beaucoup aux orbitales qui sont les plus hautes en énergie, qu'on appelle les orbitales 3D, parce que c'est de là que vont venir l'essentiel des propriétés magnétiques. Première règle, c'est que quand on a des électrons, on les met dans les niveaux les plus bas. Quand on construit une maison, on commence par le sous-sol ou pour le rez-de-chaussée. Et pour l'hydrogène, on met le spin que l'on a ou l'électron qu'on a dans le niveau le plus bas et on a le spin de l'électron qui est 1,5. On prend l'hélium, 2 électrons, on met 2 spins et on les met ici dans le niveau le plus bas. Mais, et je vous demande de regarder le niveau le plus bas et de voir que les deux spins n'ont pas le même sens. Les deux flèches sont en sens opposé, elles sont antiparallèles. Et ceci est donc le spin est nul. Et ceci est dû à la deuxième règle qui a été donc proposée par Pauli, qui nous dit que dans une orbitale, on ne peut pas mettre plus de 2 électrons avec un même spin. C'est un principe d'exclusion extrêmement fort. Et quand on a 3 électrons, eh bien, on les envoie au-dessus, on les envoie aux frontières. Un rêve pour un ministre de l'Intérieur. En tout cas, ici, l'hélium, c'est spin 0. Si on a maintenant Z proton, eh bien, on va remplir les niveaux. Voici le lithium, voici, qui est spin 1,5, paramagnétique. Voici le beryllium, diamagnétique, un nombre de spins apparié. Le bore, voilà, qui lui, à nouveau, est paramagnétique. Et puis, avec le suivant, qui est le carbone, on va avoir un dilemme où mettre le sixième électron. On peut le mettre dans la même orbitale ou on peut le mettre dans les orbitales à côté. Et ce dilemme est levé par le troisième principe qu'a énoncé monsieur. Voilà, il est là. On le met à côté et avec un spin parallèle au premier. Et c'est la troisième règle, qui est la règle que l'on doit à monsieur Hund, Friedrich Hund. Deux électrons, deux orbitales, même énergie, elles sont orthogonales. Eh bien, l'état le plus stable est l'état qui aura le spin le plus élevé. C'est ça le principe de Hund. Voici monsieur Hund. Et le carbone aura deux spins à moments parallèles, et donc il aura un spin 1. Nous passons donc aux molécules, et Roberta Sessoli va vous dire comment les chimistes sont très contents de jouer au Lego en combinant les atomes pour faire des molécules.
Alors, avec ce que Michel a nous montré jusqu'à maintenant, on attend que la plupart, on a vu qu'il y a pas mal des atomes qui, on attend qu'ils soient magnétiques ou paramagnétiques. Mais effectivement, on n'est pas entouré par des atomes. Si on exclut les gaz nobles, tous les atomes, ils sont liés avec quelque chose. Et si on parle des molécules, on voit bien qu'il y a une force, une tendance, les atomes à se lier. Et d'où se vient cette tendance? Ici, nous avons un atome d'hydrogène, on l'a vu tout à l'heure. On a l'interaction attractive entre les noyaux et l'électron. Si on va mettre un autre atome d'hydrogène à côté, on va avoir encore une autre interaction attractive. Mais on voit tout de suite qu'il peut avoir des interactions. Ils sont des interactions répulsives parce qu'il y a les noyaux avec les mêmes charges, il y a les électrons avec la même charge, mais quand même la molécule se forme parce qu'il y a des interactions attractives additionnelles entre l'atome entre l'électron de l'atome 1 avec les noyaux de l'atome 2. Aussi, c'est les électrons, après, on ne les peut pas distinguer. Et comme ça, c'est à nouveau une formule que ça nous dit, mais ce n'est pas très important. C'est important les concepts qui est derrière. Et si on veut voir ça dans une façon différente, à nouveau avec les orbitales et l'énergie, on part d'un atome d'hydrogène, on a l'autre atome d'hydrogène, les orbitales de les deux atomes ils vont se voir, interagir, en formant un nouvel orbital qui s'appelle l'orbital liant et un autre à plus haute énergie qui est l'orbital antiliant. On utilise toujours les mêmes règles qu'on a vues tout à l'heure et on voit par exemple que les spins de la première atome d'hydrogène va se mettre dans sa place plus bas. Le deuxième aussi, il va se mettre dans les places plus bas. Mais pour faire ça, il faut que les deux électrons vont être appareillés, ça veut dire avec les spins opposés. Et comme ça, on est parti dans quelque chose de paramagnétique, l'atome d'hydrogène, on termine avec en molécule qui est diamagnétique, la molécule d'hydrogène. Ce n'est pas vrai quand même que tous les molécules ils sont diamagnétiques. On connaît par la publi aussi qu'il a pas mal de problèmes, des radicaux libres, des radicaux libres, des choses pareilles. Bon, un des molécules qui est autour de nous et qui viole cette règle, c'est le dioxyde d'azote. Et c'est un composant de la pollution des grandes villes et c'est responsable là des brouillards un peu rouges qu'il y a à Paris, mais aussi à Florence, hein, c'est pas seulement le problème de Paris. Pourquoi les dioxyde d'azote est paramagnétique? Bon, c'est suffisant de compter les électrons, 6 électrons pour l'oxygène, 6 pour l'autre oxygène, 5 pour l'azote, ça fait 13. On n'a pas les moyens d'appareiller les électrons. Il restera toujours un célibataire et ça donne les paramagnétismes, les caractères radicaux à dioxyde d'azote. Quand même, ici on voit à nouveau la façon de décrire l'électron avec son fonction d'onde, l'orbital. On voit que l'électron célibataire est un peu délocalisé sur les 3 atomes. Quand même, ça dit, oh, ben là c'est facile d'avoir des molécules qui sont paramagnétiques. Il ne faut pas faire des gros efforts pour avoir ça. Mais ce n'est pas vrai. Et ici, il faut Michel qui nous aide. Et c'est suffisant, par exemple, que la température baisse. Ici, c'est Paris sous la neige. Bon, effectivement, il faut baisser un petit peu plus que la température d'un hiver un peu rigide comme cette année pour voir que les caractères magnétiques de l'hydroxyde d'azote, ils s'en vont. Et comme on peut le voir, et tu nous fais voir... Oui.
Donc nous avons ici, nous, il faut un peu dès que nous aurons l'image... Voilà, une ampoule de dioxyde d'azote. En gros, vous produisez du dioxyde d'azote lorsque vous roulez en voiture dans les rues de Paris et ailleurs, parce que les molécules d'azote et d'oxygène de l'air réagissent à haute température pour donner ces oxydes. Et vous voyez ici, au premier plan, un tube de dioxyde d'azote de couleur brune. Et ici, les molécules sont paramagnétiques. Et lorsque... on va tremper ou refroidir ce tube. Ici, c'est un bain d'azote liquide. Voilà, je tourne. Ne soyez pas... J'ai des gants, évidemment, pour me protéger du froid. Il faut toujours prendre des gants quand on manipule ici. Et vous voyez désormais que la couleur a... disparu, il y a un peu de glace à la périphérie. Nous avons réalisé une réaction chimique qu'on va illustrer dans un instant. Deux molécules de dioxyde d'azote se sont approchées, ça remue moins, puis les deux atomes d'azote se rapprochent et on a formé une liaison chimique. Vous êtes les témoins ici de formation d'un certain nombre de liaisons chimiques entre deux molécules de NO2. Et si je reprends le tube et que je le réchauffe, on peut montrer que cette réaction est réversible, et on va voir réapparaître rapidement la couleur initiale de NO2.
On peut revenir sur la... Ici, on voit sur la, maintenant sur l'écran, qu'est-ce qui effectivement s'est passé, c'est que les électrons célibataires aiment bien former cette liaison chimique. C'est toujours là. L'électron qui est important pour le magnétisme, c'est aussi responsable, c'est la colle qui tient ensemble les atomes, et comme ça, c'est facile à les perdre. Bon, il y a quand même pas mal de molécules autour de nous, et un autre qu'on aimerait bien voir, et on va voir quelqu'un de cette molécule, la plus commune, c'est la molécule d'eau. Bon, on est entouré par les molécules d'eau.
Et donc, on trouve de l'eau partout, dans la Seine, pas forcément aussi pure que celle qu'elle est dans les tubes. Dès que l'image sera bonne, vous allez voir une balance ici, avec un axe, et on a deux tubes qui sont remplis d'eau, et Ceci va nous permettre d'illustrer, vous voyez ici, l'un des tubes et l'autre. Et je vais approcher cet aimant puissant, qui est un aimant de néodyme fer bore, de l'un des tubes, sans le toucher, évidemment. C'est tellement sensible que de toute façon, si je touche, vous allez vous rendre compte tout de suite. Mais je pense que désormais, vous pouvez voir, je ne touche pas le tube. Allons-y, il y a un point dur. Donc je vais recommencer de l'autre côté. Ah, non, la caméra n'aime pas que je se tourne de l'autre côté. Ici, peut-être. Voilà. C'est un mouvement très lent, c'est un effet très faible, parce que l'eau est très très faiblement diamagnétique, même mon aimant très fort ne le repousse pas très fort. Mais ceci veut dire que l'eau est repoussée dans un champ magnétique. Ça veut dire, en termes de magnétisme, c'est diamagnétique, c'est repoussé, et tous les électrons de la molécule d'eau vont par paire, ils sont appariés. Alors ça c'est... Bon, merci. Cette expérience, vous pouvez la découvrir plus sensible au palais de la découverte.
Oui, bon. Et on voit à nouveau sur l'écran la structure chimique de l'eau, et bien sûr, on voit que les électrons, maintenant, ils sont tous mis en paire. Comme ils sont mis en paire, on a coincé, on a annulé les paramagnétismes et les systèmes. L'eau est diamagnétique. Il y a aussi des autres. On revient à la. Hop. Excuse-moi.
Composé diamagnétique et le graphite, celui que vous avez dans vos crayons à mine de graphite. Et voici ici quatre aimants qui sont disposés, disons, tête bêche, un champ vers le haut, un champ vers le bas, un champ vers le bas. Et au-dessus, j'ai disposé une petite feuille de graphite pyrolytique qui est, vous voyez danser la feuille. Voilà. Le graphite lévite, nous avons vu cette expérience déjà dans les mains de M. Givor et de M. Coé. Le graphite est repoussé, et c'est une propriété, bon, pas très intéressante au point de vue magnétique, mais qui a des applications formidables, parce que si on a un champ magnétique qu'on peut faire léviter les choses, eh bien, il y a effectivement pas mal d'applications.
Les raisons pour lesquelles la graphite il est repoussé plus, dans une façon beaucoup plus forte que les molécules d'eau, c'est parce que la structure des graphites, sa structure avec les plans, des hexagones, où il y a un électron empareillé qui va quand même du charbon, qui va se séparer avec celle des voisins pour faire des structures qu'on appelle résonantes, délocalisées, où les mouvements de l'électron va générer une sorte de courant qui va repousser ou opposer à l'échelle magnétique. Ça, c'est effectivement la graphite, un très fort diamagnétisme, seulement dans les plans. On le voit ici, les plans. C'est très anisotrope aussi. On voit maintenant des autres molécules, les molécules de l'air. On a vu les liquides, on a vu un solide. On passe à des molécules de l'air, les composants de l'air. La plupart de l'air est l'azote, les diazotes. Et les diazotes, on a ici un grand dur avec pas mal d'azote liquide. Et on va faire une expérience pour vous montrer qu'est-ce qu'il fait l'azote liquide quand il est mis, il est approché à un champ magnétique.
Voilà donc ici une boîte de polystyrène expansée. Dans lequel il y a de l'azote liquide et dans lequel nous avons trempé un aimant, deux aimants, montés sur un tube en U. Et ce que l'on peut distinguer ici, c'est qu'entre les deux aimants, ici, il n'y a pas de film de liquide. Voilà, on voit très bien qu'il ne se passe rien, sauf effectivement une certaine évaporation de l'azote. Et de l'eau qui est condensée sur les aimants. Donc je retrempe ceci Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'azote liquide n'est pas attiré par les aimants. J'ai ici un vase de Dewar contenant de l'azote liquide également, et j'ai placé ce vase de Dewar juste dans ce tube ici, dans le vase de Dewar. Et j'ai condensé une autre espèce qui arrive de l'air, qui est le dioxygène, dont la température d'ébullition est un peu au-dessus de celle de l'azote, et qui me permet, vous voyez maintenant, il se met à bouillir ici. Et ce que je vais faire, c'est de verser cet oxygène liquide dans l'entrefer de mon aimant ici. Voilà. Et ce que je souhaiterais que vous voyiez maintenant, sur fond noir, c'est un cylindre. Ah, c'est moins bon. On le devine. Il y a ici un cylindre de dioxygène qui s'évapore, ce qui veut dire que le dioxygène est attiré par les aimants. Ce cylindre se forme dans le champ magnétique créé ici par les aimants. Je peux recommencer? Non, nous n'avons pas de temps pour recommencer. Conclusion, l'oxygène qui est dans l'air est une molécule magnétique, est une molécule paramagnétique.
Merci. Et comment... Alors, excuse-moi, ça ne marche pas non plus parce qu'il y a un delta time.
Même la poigne ne suffit plus.
Bon, je vais continuer avec ça. Pourquoi l'oxygène est différent, le dioxygène est différent de diazote? Ici, on a toujours les mêmes dessins de tout à l'heure. On a les électrons, on a les orbitales, et par l'azote, on doit placer les trois électrons pour chaque orbital. Pour chaque atome d'azote, on a trois orbitales à disposition, et bien sûr, on va tous les remplir avec spin up, spin en haut, spin en bas, avec un apparemment antiparallèle des spins. Et comme ça, l'azote est diamagnétique. Par contre, l'oxygène, ici, peut-être on le voit un peu mieux parce qu'il avait un peu plus de lumière. On voit effectivement cette partie. Bon, c'est cette sorte de pellicule d'azote d'oxygène qui se forme entre les aimants. Cylindre d'oxygène qui se forme entre les aimants. Et pourquoi ça? L'oxygène a un électron en plus. Il faut alors maintenant mettre 4 électrons pour chaque atome. Et ça, c'était ce qu'on avait avant pour l'azote, pour l'oxygène. Où est-ce qu'on va mettre les quatrièmes chacun de chacun atome, les quatrièmes électrons de chacun atome? Mais maintenant, on a des orbitales qui sont orthogonales, ils sont à la même énergie, et l'oxygène va avoir les deux électrons mis avec les spins parallèles. Parce qu'il y a deux orbitales orthogonales. Et l'importance de cette chose, c'est que l'oxygène soit une molécule magnétique, est énorme. Énorme parce qu'il doit réagir avec la plupart des choses qui ne sont pas magnétiques. Et son état, on appelle l'état des triplés, va être beaucoup, beaucoup moins réactif de qu'est-ce qu'on peut avoir avec une molécule qui a les électrons on appelle un état des singulés. Ça veut dire avec les électrons appareillés. Et ça a permis effectivement le développement de la vie, parce que nous, on est des systèmes, on est des combustibles, on est à côté de l'oxygène, mais on ne brûle pas. Et on ne brûle pas, pourquoi? Parce que l'oxygène est moins réactif, parce que les électrons sont mis comme ça, comme on a vous montré. Bon, ici, ça, on a vu seulement les choses un peu naturelles, qu'est-ce qu'on a à côté de nous, mais où est-ce qu'il va, les chimistes? Ici, c'est en haut, vous voyez les mots italiens, dove la natura finisce di produrre le sue spezie, l'uomo qui vi comincia con le cose naturali, con l'aiutorio di essa natura a creare infinite spezie. Michel a fait la traduction en bas, comme ça, si vous pouvez lire qu'est-ce que Leonardo da Vinci a déjà pensé comme la mission, on peut dire, la mission de l'homme de partir avec la nature, mais aussi, on va voir après, en pace avec la nature.
En symbiose,
voilà, en phase pas, avec la pas nature. Contre, mais avec la nature, à faire en infinie quantité de nouvelles choses. Et Michel, je pense, va vous montrer un peu la.
Donc là où la nature s'arrête, l'homme commence, l'homme créateur, et nous allons essayer de voir si on peut faire des matériaux magnétiques moléculaires. On peut le dire avec des fleurs pour contrôler le spin. Voilà une orbitale. Vous prenez une fleur dans votre jardin et vous pouvez avoir la même chose. Ensuite, vous regardez comment se recouvrent les pétales. Et vous voyez ici qu'il y a un recouvrement entre les pétales et c'est un recouvrement axial. On dit, les chimistes disent que c'est un recouvrement sigma. Mais vous allez dans un autre coin et vous verrez un recouvrement comme ceci, latéral, qui est un recouvrement pi. Et puis, enfin, dans un coin caché, il y en a un petit peu moins de celui-là, on voit qu'il y a ici une orthogonalité, il n'y a pas recouvrement, mais orthogonalité, les pétales ne se voient pas, et c'est à partir de là que recouvrement, ce sera antiferromagnétisme, et orthogonalité, ce sera ferromagnétisme. Et ça, vous pouvez faire le... Voilà, et donc, à partir de là, eh bien, nous allons prendre des briques élémentaires, et puis nous allons les mettre du ciment. Voilà, par exemple, une brique qu'on affectionne, qui est l'hexacyanoferrate. Et puis on ajoute un ion. Voilà, ça c'est un hexacyanométalate. Et ça, c'est un hexa-aqua métal. Et bien, lorsqu'on les combine, on obtient ce précipité ici, qui est, si on prend du ferricyanure. Non, ça va. Voilà. On ne peut pas faire l'expérience parce qu'on n'a pas de quoi vous la projeter, mais si on place du ferricyanure de potassium, du ferrocyanure de potassium, avec une charge 2 sur le fer, d'un côté des cristaux, et puis des cristaux de chlorure ferrique, fer 3, eh bien on a ce joli précipité, ce n'est autre que le bleu de Prusse. Et ce qui est arrivé, c'est une mésaventure qui est arrivée à M. Diesbach, qui était drapier à Berlin. Il voulait faire un pigment rouge, que vous voyez là au milieu de la figure. Il a fait un pigment bleu, et ça a été la grande carrière de pigment qu'a commencé ce jour-là, le bleu de Prusse. Il est aussi connu comme le premier composé de coordination. Et en se servant donc de recouvrement et d'orthogonalité, eh bien, par exemple, on a un chrome ici, à la place du fer 2. On a toujours la même brique, qui est un hexacyanométalate. Et puis de l'autre côté, on va mettre un nickel. Et vous voyez les structures électroniques. À gauche, vous avez le chrome, où les électrons sont dans les orbitales du bas. Dans le nickel, il y a davantage d'électrons dans l'atome et donc, ou dans l'ion. Et donc, il y a deux électrons qui sont dans des orbitales qui sont au-dessus et qui n'ont pas la même symétrie, comme va le montrer la figure dans un instant, que... voilà. Vous voyez qu'il y a une symétrie pi à gauche et une symétrie sigma à droite. Pi, sigma, c'est orthogonal, on aura du ferromagnétisme. Ferromagnétisme. Si maintenant on remplace le nickel par du manganèse, eh bien vous voyez que cette fois-ci, le chrome n'a pas changé. Le manganèse, il y a maintenant 5 spins dans 5 orbitales, certains de même symétrie que celle du... ça, c'est les orbitales du haut pour le manganèse, mais on peut avoir aussi... Ça, c'est ferromagnétique. Mais vous voyez que le bas... Ça a la même symétrie que les orbitales du chrome, donc ce sera antiferromagnétique. Il y aura une bataille, et en général, c'est l'antiferromagnétisme qui gagne. Ceci, c'est pour rappeler que tout cela, on explique ça avec des fleurs, mais en fait, il y a aussi beaucoup de mathématiques derrière, beaucoup de concepts, et beaucoup d'imagination aussi. Voilà quatre grands scientifiques qui ont marqué l'histoire de la liaison chimique, Linus Pauling, Robert Mulliken, Roald Hoffmann, et Olivier Kahn, qui malheureusement est trop tôt décédé. Et c'est en quelque sorte aussi cette conférence ici, de la part de Roberta et de moi-même, c'est un hommage à sa mémoire. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on a avancé. Mais une fois qu'on a ajusté les interactions d'échange entre les électrons, on peut avoir des interactions très fortes. Et si on développe dans le solide tridimensionnel, on peut avoir partir des molécules à partir de solutions et avoir des aimants. Et on a obtenu ainsi un aimant à la température ambiante, qui est ici, à base de vanadium et de chromicyanure. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est quelques-uns des dispositifs que nous avons créés avec des ingénieurs du CNRS, M. Keller, Mme Villain, et puis des postdocs comme Nati Galvez. Voilà. Ici, vous avez un dispositif, une lampe, deux lentilles, ici un pendule et ici une roue. Et on met, à l'endroit sensible que l'on peut éclairer, on met un aimant qui est un aimant près de la température ambiante. En dessous de la température de Curie, c'est un aimant. En dessus de la température de Curie, il est désordonné. C'est un composé paramagnétique. Et si on le chauffe, c'est tout près de la température ambiante, c'est 42 degrés Celsius. Donc si on chauffe ce composé, à la température actuelle, il est aimant. Et lorsque je vais chauffer, il va devenir paramagnétique. Il sera beaucoup moins attiré par un aimant. Et à ce moment-là, si on le dispose de façon astucieuse, eh bien, on va avoir des mouvements. On va transformer l'énergie lumineuse en énergie mécanique. Donc voici une roue. C'est ici qu'il faut regarder. Je chauffe. Voilà, on focalise ici. Alors ici, nous avons un aimant permanent qui est en face d'un aimant moléculaire. On le chauffe, il n'est plus attiré, il s'en va. Mais le suivant est attiré et ça tourne. Il y a toujours un petit point dur au niveau de la mécanique, mais c'est une merveille de mécanique. Et on peut comme ça transformer l'énergie lumineuse en énergie mécanique. Ceci est le premier dispositif. Ici, on a aussi une expérience, on ne la montrera pas, c'est l'expérience de Faraday avec un clou, il fallait chauffer à 750 degrés. Ici, à la température ambiante, ça marche. Ici, c'est un autre dispositif. Oui, donc on voit très bien tourner la roue, là. Voilà, c'est un autre dispositif qui est conçu avec le même produit. On a mis ce produit au bout d'un levier. Et lorsque... Et ici, on a un point chaud, qui est un aimant qui est chauffé. Et lorsque l'aimant moléculaire est dans sa température, dans sa phase aimantée, au-dessous de la température de Curie, il est attiré. Et lorsqu'il est chauffé par l'aimant, au bout d'un moment, il se réchauffe et hop, il s'en va. Ça veut dire qu'ici, on a une sonde thermique et on a un interrupteur magnétique. Et vous voyez qu'on a mis judicieusement ici des lampes rouges et vertes sur votre gauche, de façon à ce que lorsque le circuit se ferme, eh bien, on puisse ouvrir ou fermer un circuit grâce ici à un drapeau et une diode qui permet de... Alors, ce serait bien que ce soit attiré. Et ça dépend évidemment de la température de la salle. Voilà, ça met plus ou moins longtemps à arriver. Bien, le temps nous étant limité, on va laisser les choses comme ça. On y reviendra peut-être au moment des questions. Et on va passer donc à la suite de l'exposé. Ah, ça, voilà. On l'a vu tout à l'heure au début.
Jusque maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? C'est comment construire des systèmes avec les chromocyanates, des systèmes étendus. Ça veut dire des systèmes qui ressemblent beaucoup à... sont des réseaux infinis, comme les oxydes, comme les métaux. Mais les chimistes aiment beaucoup les molécules. Alors, qu'est-ce que ça nous intéresse? C'est de contrôler la croissance de cet réseau infini et la bloquer, la contrôler pour avoir des systèmes polynucléaires. Ça veut dire de se fermer au niveau de la molécule. Et comment on peut faire ça? On peut faire toujours en jouant avec les Lego. Ça veut dire on prend les mêmes briques que tout à l'heure, mais on ajoute quelque chose qui a à côté une sorte de protection qui empêche de continuer la liaison chimique jusqu'à l'infini pour obtenir, par exemple, une molécule heptanucléaire, parce qu'il y a un ici, il y a un atome au centre avec son moment magnétique, et il y a 6 atomes à côté, à peu près dans les directions de l'axe d'un octaèdre, des autres atomes à côté. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les liaisons chimiques donnent aussi maintenant un échange magnétique et nous amènent à la possibilité d'avoir un spin résultant qui résulte de cette interaction assez grand. Par exemple, si on va mettre un chrome au milieu et 6 nickels alentour, on trouve un spin qui devient des 15 demi. On a 15 électrons empareillés parce que les orbitales, on l'a vu avant, sont orthogonales et l'interaction est ferromagnétique. Mais aussi, si on va mettre les manganèses, où on a vu qu'il y avait une interaction antiferro parce qu'il y a aussi des orbitales avec la même symétrie, on gagne quand même pas mal un spin, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y en a ? On a tous les spins du manganèse qui sont dans le même sens, inversés par rapport à celle du milieu. Mais celle du milieu, qui est petit, il est un seulement, il sert comme un col pour garder tous les autres dans le même sens. Et on a ici un spin de 27 demi. Et 27 demi, mais est-ce qu'on trouve en nature une chose pareille ? Ici, nous avons une table périodique, un tableau périodique. Et ici, nous avons les éléments de transition. Les éléments de transition sont celles qui sont plus des électrons célibataires. Mais au maximum, on peut avoir 5 électrons célibataires, un spin 5 demi. On peut aller plus en bas dans la table pour aller vers sur le lanthanide et le maximum qu'on peut avoir sont les 7 électrons F du gadolinium et c'est un spin 7,5. Ça veut dire qu'effectivement, on a pu faire beaucoup grandir les valeurs des spins. Mais si je vous montre une autre molécule, que c'est un peu ma spécialité, c'est une molécule que si on la regarde comme ça, on voit des ions métalliques, on voit des oxygènes, ça ressemble à un morceau d'un oxyde. Bon, on connaît la magnétite, la ferrite, ce sont tous des oxydes. Mais ici, à nouveau, qu'est-ce qu'on ajoute ? On ajoute quelque chose d'organique. Par exemple, ici, c'est l'acide acétique. Qu'est-ce qu'il y a dans le vinaigre ? Et on empêche, avec l'acide acétique, on empêche la croissance de cet réseau oxyde jusqu'à l'infini. Et on voit bien là, sur cette animation, qu'effectivement, l'acide acétique est sous haut. Bon, ici, c'est l'acétate, il a perdu son hydrogène, son proton. C'est suffisant pour empêcher, pour cacher la partie, le cœur magnétique, le cœur métallique de la molécule. À nouveau, on peut mettre dans cette molécule des ions magnétiques, par exemple le manganèse 3 qui est un spin 2, et on peut mettre les verts, il est par contre du manganèse, bon, mais ce n'est pas très important, un manganèse avec un numéro différent d'électrons célibataires, qui est un spin 3,5. La chose, les résultats, quand même, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est pas important si on a des couplages antiferraux, parce qu'il faut penser que orthogonal, c'est l'exception, alors c'est difficile de les réaliser, mais si, c'est pas nécessaire d'avoir des interactions ferro, aussi avec des interactions antiferro, on a un spin 10. Mais pourquoi cette molécule est un peu différente de celle qu'on a vue tout à l'heure ? Ici, c'est un cycle d'hystérésis. Vous n'avez vu pas. Bon, si quelqu'un a suivi les précédentes soirées du magnétisme, a vu pas mal de cette cycle d'hystérésis. Le cycle d'hystérésis, c'est effectivement la courbe de la montation en fonction du champ, qui est la caractéristique avec lesquelles on peut stocker de l'information sur un système, sur un milieu magnétique. Pourquoi ? Parce que imaginez ici qu'on vient au champ, on vient au champ et on revient vers champ nul. Et on trouve quoi ? On trouve que le système a une augmentation qui n'est pas zéro, il est positif. On continue, on va jusqu'à champ très négatif, on revient en arrière, et maintenant si on revient à champ nul, on trouve que l'augmentation c'est négatif. Alors, les systèmes peuvent savoir, connaître, rappeler son passé s'il a vu un champ positif, un champ négatif. Hier, on a eu un bel cours, un bel exposé sur les stockages de l'information dans les milieux magnétiques. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on avait pensé? C'était que la possibilité d'avoir un hystérésis, c'était une propriété due à l'effet qu'on travaille avec beaucoup de spins. Hier, vous avez vu, c'était déjà des choses très petites, mais c'était des milliers de spins qui font des interactions, ou encore plus. Ici, par contre, c'est un système fini, c'est un système avec très peu d'atomes magnétiques. Et pourquoi la molécule de cette molécule de manganèse, on l'appelle manganèse 12, est différente? Peut-être vous le vendredi, Dr. Wenzdorfer a déjà montré cette molécule. Pourquoi est différente de ce qu'on a vu tout à l'heure? On la voit ici, pourquoi c'est différent? On voit que si on la regarde par-dessous, on a un voie latéral de la molécule, on voit qu'il est différent. La molécule, on dit, est anisotrope. Et la forme de la molécule et les composants qu'il y a dedans, ça veut dire les ions magnétiques qui sont dedans, vont avoir une direction préférentielle pour la montation. Alors, on dit que la molécule est un axe facile d'amontation. Bon, il y a toujours un hamiltonien qui peut expliquer ça, mais la chose importante, c'est qu'est-ce que ça passe à l'énergie du système. Dans l'énergie du système, on peut penser que l'énergie plus bas va être celle quand le moment magnétique est plus proche possible à l'axe favorable pour la montation. Et ici, on voit les deux possibilités, vers le haut ou vers le bas. Comment on change un peu, on essaye de pousser les moments magnétiques au-dehors de cette direction favorable, l'énergie augmente jusqu'à être maximale quand on essaie de les mettre dans l'autre côté, perpendiculaire à cet axe qu'on appelle axe facile. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu, cette double puits, mais parce que c'est le même qu'on voit quand on parle des nanoparticules magnétiques, mais dans ce cas-là, on a une chose un peu particulière parce que les systèmes, un système fini, un système quantique, il n'y a pas toutes les possibilités, mais seulement un numéro fini de possibilités pour l'orientation du moment magnétique. Et vous le voyez en bas, ça c'est les règles de la mécanique quantique et nous disent qu'il peut seulement avoir des valeurs qui vont être distinguées par l'unité. Pourquoi on voit un hystérésis? Parce qu'on applique un champ magnétique et quand on applique un champ magnétique, un de ces puits va être stabilisé. Et comme ça, c'est vraiment comme on a des boules qui ont fait, elles vont tout vers la partie plus bas. Ils vont se mettre dans les puits plus bas. On revient en arrière, on revient à champ nul, et quand on revient à champ nul, le système n'est pas dans l'équilibre, il n'est pas à son état d'équilibre, parce que son état d'équilibre veut qu'il y a moitié des molécules dans un sens, avec l'augmentation dans un sens, moitié des molécules dans l'augmentation dans l'autre sens. Et comme le système peut approcher l'équilibre? Bon, il y a seulement une façon, il faut franchir cette barrière d'énergie qui empêche le système de réinverser son augmentation. Alors le système doit en sorte grimper, comme on dit, sur une sorte d'échelier, et après revenir dans l'autre puits. Et ça, il peut faire seulement parce qu'il va profiter de la activation thermique. De chaleur. Alors, toutes les fois qu'il y en a une application, en quelque chose qui est en activation thermique, il suit la loi d'Arrhenius. Ça veut dire que les temps caractéristiques de ce système, de ce processus que vous avez vu ici, c'est assez lent, il va devenir de plus en plus lent avec une loi exponentielle quand on baisse la température. Ici, par exemple, ici, on vous montre les temps caractéristiques de ce processus, les processus dans lesquels on perd l'information magnétique parce que l'augmentation va revenir, va se retourner. On a vu hier qu'il a, on a un problème de stockage d'informations magnétiques parce qu'on perd de l'information après un certain nombre d'années et on ne peut pas penser d'avoir une information stable indéfinitivement, mais parce que bon, pour des raisons techniques, hier on a bien illustré. Ici on voit par exemple que dans cette molécule, si on est à 7 degrés, on est Kelvin, hein, ça veut dire très très bas en température, très proche, moins 260 quelque chose. Le temps de relaxation, le temps avec lequel on perd l'information magnétique est très vite, en millisecondes. Mais comme on baisse la température, on peut arriver, par exemple, à une année. On peut monter encore plus. Ici, ce sont des données expérimentales. On ne peut pas mesurer plus qu'une année, parce qu'après, les gens vont s'énerver qu'on piège, on piège un instrument pour plus d'une année. Mais on voit la croissance exponentielle, qu'ici, ça devient une ligne droite, parce qu'on est sur une échelle semi-logarithmique. Et comme ça, hier, on a vu cette diapo, c'est transparent. On montre comment la densité de stockage va augmenter. Il est en train d'augmenter. Qu'est-ce qu'ils sont les problèmes de la densité de stockage? Et à la fin, l'expositeur de hier a nous montré, bon, une possibilité, c'est utiliser des molécules qui sont beaucoup plus petites. C'est ça que nous, on travaille, mais au moment, on a un problème. Quel problème on a? On a le problème que la température à laquelle une molécule peut stocker l'information est trop bas pour des applications. Et sur ça, il faut travailler. Ça, c'est la mission des chimistes. Ici, vous voyez dans les années qu'est-ce qui s'est passé pour les valeurs des spins. On a appris à faire des molécules avec des spins vraiment, vraiment très grands. Le record maintenant, c'est des 83 sur 2. Spin. Les spins, c'est 83 demi. Ça veut dire on a 83 électrons célibataires, tout parallèle un à l'autre. Malheureusement, si on regarde la température de blocage, on voit qu'on n'a pas gagné aussi tant. Et ça, c'est un peu un problème. Et pour longtemps, le record est resté à la molécule la première qu'on a découverte. Et seulement très récemment, une autre molécule de manganèse, plus petite, mais avec un spin plus grand, a dépassé cet record. Mais ça, ce n'est pas les seuls problèmes qu'il faut effacer. Il faut aussi apprendre à parler avec une molécule. Parce qu'hier, déjà, on a vu pas mal de moyens de s'adresser à le magnétisme, de stocker l'information, lire, écrire l'information et écrire l'information sur un milieu magnétique. Mais si on veut effectivement exploiter jusqu'au bout les capacités de la molécule, il faut adresser la molécule isolée, une molécule unique. Et ça, comment on le peut faire? Bon, quand vous cherchez quelque chose, par exemple, un bouton, c'est un bouton? Vous cherchez un bouton, vous avez une boîte à boutons, et vous le cherchez un, qu'est-ce que vous faites? Vous le renversez la boîte sur la table, et comme ça, ils vont se mettre sur la surface, et ça, c'est beaucoup plus facile de chercher et d'aller jusqu'où on veut. Comme ça, il faut apprendre à mettre les molécules qu'on appelle molécules amantes, parce qu'ils sont capables de stocker l'information, sur la surface. Il y a aussi des autres systèmes, peut-être vendredi était déjà montré cette image, mais je ne vais pas rentrer sur celle-là. Comment les chimistes vont mettre les molécules sur la surface? C'est à nouveau un jeu de Lego. On prend la partie que vous voyez ici, c'est écrit tête actif. Le tête actif, c'est la partie magnétique, ici un peu schématisée. On ajoute un espaceur et on met de l'autre côté de l'espaceur un atome, un groupe fonctionnel qui soit capable de s'ancrer sur les substrats. Et la chose qu'on utilise très souvent, c'est, par exemple, si on veut travailler sur la surface d'or, c'est un conducteur, c'est très joli, c'est aussi très stable, il ne s'oxyde pas. On peut utiliser, par exemple, des groupes qui contiennent des atomes de soufre. Soufre, or, c'est en sorte un couple, dans la chimie, ils s'aiment beaucoup. On l'a fait ça sur un autre molécule, une molécule encore plus petite. Ici, on voit seulement 4 ions de fer liés dans une façon que ça ressemble à une hélice, une hélice éolienne. Mais il faut attacher cette molécule. Oh, bon, on regarde là, c'est à nouveau une interaction antiferro qui donne un spin pas très grand, c'est un spin 5, mais c'est quand même plus grand que ce qu'on trouve dans la nature. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la chimie, il faut attacher à cette molécule des bras, quelque chose, pour l'ancre sur la surface. Et on peut faire plusieurs choses, on a une galerie, des façons de l'attacher, pas seulement à l'or, on peut aller sur les siliciums, on peut aller sur les sulfures de cadmium, mais ça dépend si on veut un conducteur, semi-conducteur ou quoi ce que ce soit. Mais maintenant, on trouve un autre problème. On est parti du cristal, ça veut dire qu'on est parti d'une quantité qui est à peu près le nombre d'Avogadro des molécules, et maintenant on se retrouve avec les molécules sous la surface, qui sont ordre et ordre de grandeur moins de ce qu'on a l'habitude de traiter. Et comme on peut voir la... excusez-moi... Comment on peut voir une molécule qui est attachée sous la surface? Je cherche, mais il faut que je revienne là. Excusez-moi. On peut la voir avec une technique qui s'appelle... Bon, d'abord, c'est une technique qui n'est pas... C'est pas nous qui l'avons inventée, bien sûr. Il a fallu avoir les prix Nobel à Binning et Royer dans les 1986. Cette technique, on appelle la technique à balayage, à microscope, à balayage des sondes. Ça veut dire qu'on a un point métallique, excusez-moi, on a un point métallique, et les points métalliques voyagent très, très, très proche de la surface, et quand ils passent à côté de la molécule, ils se déplacent un peu, et on mesure ce déplacement. Mais comment on peut faire pour mesurer ce déplacement? Parce que, bien, c'est quelque chose de très, très petit. On les mesure en regardant le courant qui passe entre les substrats et la pointe, qui est différent s'il y a une molécule ou il n'y a pas une molécule. Et ça, c'est les microscopes à balayage par effet tunnel. Une chose très, très puissante. On l'a utilisé. On commence à faire des balayages très grands. Et on voit ici, vous voyez, il y a tous des triangles. Les triangles, c'est seulement l'or. L'or, il aime bien s'arranger en terrasse, en des terrasses triangulaires. Mais nous, c'est comme un microscope. On change d'engrandissement. Et comme ça, on augmente. Et à la fin, on peut arriver à voir effectivement des détails comme les molécules sur la surface. Bon, c'est pas un vrai microscope, on regarde pas, on le voit pas comme on voit le 3D, mais on voit des taches, et si on mesure ces taches, on voit effectivement qu'ils sont en distribution bien centrée sur la taille des molécules. Chaque tache, c'est une molécule sur la surface. Mais nous, on est intéressé par le magnétisme de la molécule. Comment on peut lire le magnétisme de la molécule? On le peut lire si on va couvrir les pointes, on va couvrir les pointes, avec, par exemple, une couche des atomes magnétiques, comme des cobalt, des fer, des nickel. Si la molécule est aussi magnétique, bien sûr, il va avoir une interaction entre eux, et la pointe va se bouger, et elle va être il va avoir une attraction entre la molécule et la pointe. Et c'est avec ça qu'on peut le voir. Mais une chose qu'on aime bien faire, c'est d'essayer d'utiliser la lumière pour regarder les molécules sous la surface. Ici, c'est la lumière visible. C'est bien, c'est très utile, mais c'est mieux si on augmente la fréquence. Ici, c'est les violets, mais on augmente encore. Je laisse les faisceaux violets parce que sinon, on ne les voit pas. Et on augmente la fréquence jusqu'à les rayons X. Alors, quand on envoie les rayons X, qu'est-ce qui se peut passer? les rayons X vont interagir, sont très puissants, beaucoup d'énergie, ils amènent beaucoup d'énergie, et pouvant faire sauter un électron qui se trouve dans une couche interne de l'atome, plus proche des noyaux, pour aller sur une couche à l'extérieur. Bon, ça c'est on appelle ça spectroscopie, quand on envoie la lumière et on change l'état du système. Mais il ne faut pas oublier que l'électron a son spin, son mouvement de tournement. Et si on utilise la lumière, les rayons X, on utilise des rayons X polarisés par exemple circulairement, qu'est-ce qu'on attend d'ici? C'est qu'on peut voir des choses différentes. Si on utilise une lumière qui est polarisée dans un sens, ou si on utilise la lumière qui va être polarisée dans l'autre sens. Vous voyez pourquoi? Il y a un mouvement de l'électron, un mouvement de la lumière, l'interaction, ils vont se changer d'information de leur façon de tourner. Et c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait? C'est après la mesure s'est faite dans une façon pour gagner des sensibilités et voir très très peu de molécules. À nouveau, on mesure un courant, on mesure les électrons qui vont rentrer dans l'atome. Mais cette expérience, on ne peut pas la faire dans notre laboratoire. Il faut aller dans un grand laboratoire, qu'est-ce qu'on appelle large scale facilities. Il s'appelle synchrotron. Et un des synchrotrons, un des derniers construits, c'est celle des Soleils, qui est très proche de Paris, où nous, de temps en temps, très souvent, demain, après-demain, on ira travailler. Et ça, c'est une chose il faut être, orgogliosi.
On peut être fier de ce rayonnement synchrotron.
Oui. Je pense que c'est
facile de le faire
construire. Une bonne chose d'avoir ce type de sites qui vont accepter tous les étrangers pour effectivement échanger d'informations aussi. Nous avons fait cette expérience. C'était pas fait à Soleil, c'était fait dans un autre. C'était fait cette fois en Suisse, mais c'est à peu près la même. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'absorption avec la lumière dans un sens, polarisée dans un sens, polarisée dans l'autre. C'est une petite différence, vous le voyez là-haut. Bon, ça, c'est presque rien, ça ressemble du bruit, mais non, c'est effectivement qu'est-ce qu'on cherche. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on peut regarder ce signal en fonction du champ magnétique, et on voit une courbe d'augmentation, mais pas d'ouverture d'hystérésis en Kelvin. On descend de la température, et on arrive à voir une ouverture d'un cycle d'hystérésis. Et ça, c'est quand on voit les molécules avec les rayons X, les très peu de molécules qui sont attachées sur la surface. Et le type d'hystérésis est très semblable à celle qu'il y a dans un système massif. Ça ressemble à une chose un peu, pas très importante, mais effectivement, c'est un résultat très important parce qu'il nous dit qu'effectivement c'est possible qu'à mettre des molécules sur une surface conductrice, que c'est, comment on peut dire, l'ABC de la technologie, et garder au même temps la mémoire magnétique. La mémoire magnétique, elle n'est pas perdue par sept morceaux de processus. Et il faut se rappeler que la mémoire magnétique des molécules, c'est beaucoup différent de ce qu'on voit sur les autres systèmes. C'est une chose très, très particulière, très délicate, on peut dire. Et par contre, on a montré qu'il peut rester. Et comme ça, on a fait un tout petit pas vers la possibilité d'introduction des molécules dans le stockage de l'information. Bien sûr, excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Excusez-moi. On était très efficace jusqu'à la fin, mais... Ça, c'est deux autres choses que je ne vais pas montrer. Alors, maintenant... Ok, ça on l'a déjà vu. Bon, maintenant, ça nous reste encore pas mal de travail. On ne va pas finir ici parce qu'il faut effectivement augmenter la température à laquelle le phénomène est visible. En conclusion un peu générale, le magnétisme moléculaire, on voit un peu une sorte de parcours qui est un parcours cyclique. Il a commencé dans les années 60-50 pour étudier la matière quand on pouvait pas, la structure des composés, quand on pouvait pas avoir des informations plus précises. Après, on a appris, on a regardé l'échange entre les atomes, on a appris comment contrôler l'échange, et comme ça, on a pu faire d'abord des chaînes parce qu'elles sont plus faciles à le faire avec les Lego. Des amas, vous l'avez vu là, des amas moléculaires à température ambiante, mais c'est pas la seule chose. C'est aussi parce que dans les amas moléculaires, on peut avoir encore des autres fonctionnalités. Un très intéressant, très récent, c'est que on peut faire une combinaison des propriétés magnétiques et des propriétés optiques très, très intéressantes. Après, on est arrivé à les molécules amantes, les stockages de l'information, la possibilité d'avoir l'hystérésis. Il y a aussi des autres choses, bon, des chaînes, ils pouvons faire la même chose. Pour finir, à la fin, revenir à la fin, à une seule molécule. On est parti en étudiant l'atome, la molécule, pour étudier sa structure. Maintenant, on revient à la molécule, mais maintenant, avec notre bout de parler, écrire, lire la mémoire et l'information qui est stockée sur la seule molécule. Comme ça, je pense qu'on a terminé. Bien sûr, je vais remercier, bon, d'abord l'invitation pour être là, moi, que je viens de notre pays, tous les efforts de l'organisation, mais bien sûr, aussi, qu'est-ce qu'on vous a montré, c'est le travail de beaucoup, beaucoup de gens. Ici, vous avez l'agent de Florence, Modena, mais aussi une longue liste des chercheurs de Paris qui sont contribués à cet exposé, pas seulement l'exposé, aussi c'est François Villene a nous aidé beaucoup, mais aussi à le développement des domaines de magnétisme moléculaire.
Et le pigeon?
Bon, le pigeon, peut-être.
Le pigeon.
On l'a fait un peu tard, peut-être il est déjà.
Alors nous ne vous avons pas parlé du pigeon ce soir. Enfin, si vous acceptez, voilà, le pigeon qui a fait une partie du succès de cette série, enfin, si vous acceptez que le pigeon ici puisse se transformer en colombe, ça peut nous permettre de dire qu'effectivement, les scientifiques et puis tout le monde, pour travailler, ils ont besoin de travailler tranquille, et le monde, effectivement, a besoin de paix. Et voilà, c'est ce que nous dit cet enfant avec cette colombe dans les bras. Du Picasso qui n'avait pas encore complètement finalisé son interaction avec les maîtres au début du XXe siècle. Merci.
Alors, merci beaucoup. Et question. Y en a-t-il Ah oui, voilà, ici. Ah non. Bon, pas sur les téléphones, s'il vous plaît.
Puisque nous arrivons au terme de ce cycle de conférences, je voudrais vous manifester quand même ma surprise qu'on ait entendu parler autant de la spintronique et aussi peu du pigeon. Et c'est dommage que vous n'ayez peut-être pas fait venir un spécialiste des pigeons pour nous expliquer le magnétisme du pigeon. Bon, je vous fais part de cette remarque. Également aussi peu de l'effet du magnétisme sur la santé, puisque le sujet, c'était quand même le magnétisme aujourd'hui. Et à chaque fois que j'ai pu interroger, après la conférence, un chercheur sur la question, je peux vous dire juste deux choses. La première, c'est que Albert Fehr n'avait pas de portable avant son Nobel et que maintenant, il a simplement le portable de sa femme, et que hier, Claude Chappert m'a dit « Je sais que les champs magnétiques peuvent donner le cancer, moi j'ai pas envie d'attraper des maladies, donc on a développé des choses pour isoler, mais c'est les politiques qui n'ont pas voulu parce que ça ferait que les ordinateurs coûtent deux fois plus cher. Alors lui, en tout cas, il m'a dit, je passe beaucoup de temps sur ordinateur et je n'ai pas envie d'attraper une maladie. Voilà, merci.
Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Ce que je peux dire, c'est deux choses. La première, c'est que vous avez pu poser toutes les questions que vous avez voulu tous les soirs et vous n'en êtes pas privé. Deuxièmement, que les scientifiques vous ont répondu de manière honnête. Et je pense que plusieurs conférenciers ont parlé du pigeon, celui qui a parlé du champ magnétique, M. Gauthier-Hulot, celui qui a parlé des nanoparticules magnétiques, c'est là que nous avons le plus avancé, parce que dans le bec du pigeon, il y a des nanoparticules, et on sait effectivement quel est l'effet du champ magnétique terrestre sur ces nanoparticules. Ce que nous ne savons pas, mais c'est ça la science, c'est que quand on ne sait pas, on cherche et on finit par avancer. On l'a montré aujourd'hui encore sur un sujet très particulier. Mais sur le bec du pigeon, on ne sait pas tout. Et on continue de chercher quel est effectivement le rôle de l'alignement dans le champ magnétique de ces nanoparticules et quel est le signal qu'envoie ce mouvement au cerveau du pigeon. Eh bien ça, on ne le sait pas encore. Mais M. Le Bihan, qui lui aussi a parlé du pigeon, a montré qu'avec les techniques de RMN, de résonance magnétique nucléaire ou d'imagerie médicale, pour ne pas faire peur au public avec le nucléaire, encore que le spin du noyau, il est bien innocent, le pauvre. En tout cas, il nous permet de voir le cerveau et on voit le cerveau des oiseaux. Et c'est sûrement aussi par là que passera la solution du problème du pigeon.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous répéter ou nous expliquer où se fait le stockage de l'information ? Parce que je n'ai pas tout compris, je vous avoue. Et la mémoire de l'information stockée sur une molécule, où pensez-vous qu'elle est ?
Roberta ?
Oui. Bon, l'information, c'est stocké dans une façon très simple. Il ne faut pas penser à notre façon de penser. La mémoire, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais vous avez vu, l'ordinateur, ça marche dans une façon très simple. Il a un cerveau très simple où il peut garder seulement savoir seulement des choses blanches ou noires, 0 ou 1, qui s'est traduit en augmentation up ou augmentation down, up, haut, vers le haut, vers le bas, ou vers le gauche, vers le droit. Et avec ça, comme on a une ouverture d'hystérésis, ça veut dire que un champ zéro, on a encore, ou n'importe quel un champ différent, on a une valeur différente, indépendante de l'histoire magnétique de la molécule, de la nanoparticule, de n'importe quoi. Là, on stocke l'information. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut aller lire le magnétisme et savoir si, dans quelle direction est le moment magnétique, parce que ça veut dire si on a écrit 1 ou 0 là, sur la molécule. La différence entre les molécules, c'est seulement qu'il y a plusieurs différences. Je n'ai pas rentré dans les détails. C'est qu'il, d'abord, est plus petit, ça nous aide. Si on veut stocker plus d'informations, mais il y a aussi une autre propriété, ça veut dire il est vraiment quantique, parce que vous avez vu d'avant, il avait tous des niveaux, et pour relaxer la montation, il fallait sauter comme un échelier dans un côté à l'autre, et tout ça cache tout un beaucoup, beaucoup de propriétés que peut-être, si on arrivera à l'exploiter jusqu'au fond, on va avoir moins de problèmes de qu'est-ce qu'on a vu hier. On a écouté hier, ça veut dire les problèmes de choisir un compromis entre combien c'est facile écrire l'information, mais combien, dans les temps, est stable l'information magnétique. Et on peut exploiter la nature quantique. Ça, c'est quelque chose qui, peut-être vendredi passé, était un peu mieux détaillé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?
L'information, le stockage de l'information, il est lorsque la molécule est vers le haut et vers le bas, avec un temps de relaxation très long, et donc on conserve cette information qu'on a mise sur la molécule, soit le spin vers le haut, soit le spin vers le bas.
Monsieur, oui, là-haut.
Je voudrais savoir si le stockage de l'information génétique sur une molécule d'ADN s'apparente au principe que vous avez décrit, et sinon, est-ce que ce serait un autre axe de recherche pour stocker de l'information sur une molécule ?
Oui, il marche quand même avec une histoire qui est liée plutôt à la conformation de la molécule plutôt que le champ magnétique. Bon, le champ magnétique, il y a quand même quelque chose de... Bon, moi, je n'ai pas aussi peur des champs magnétiques, surtout des champs magnétiques qui pas des hautes fréquences. Je pense un peu à la question de tout à l'heure. Si on regarde l'ancienne électronique de l'éveil radio, il y avait pas mal de courants qui passaient dans du cuivre. Alors, il ne faut pas penser que plus petit, plus moderne soit nécessairement pire. Ce n'est pas ça. Les champs magnétiques, c'est quelque chose qu'on contrôle très bien. C'est pour ça qu'il a eu aussi tant de développements. Mais bien sûr, on essaie de faire des choses différentes. Par exemple, travailler avec les nucléaires, les magnétismes des noyaux, ou aussi travailler avec des choses comme la conformation des molécules. Oui.
À vrai dire, sur l'ADN, la mémoire, elle n'est pas magnétique. Il y a toute une série de molécules, c'est une très belle molécule, une très belle macromolécule, donc qui est arrangée d'une certaine manière, et c'est là qu'est l'information, dans les conformations différentes de la molécule. Hein, il n'y a pas de stockage magnétique de l'information à proprement parler.
Pourquoi a-t-on appelé paramagnétique les corps qui réagissent à l'aimant, et quel est le mot anglais ?
Le mot anglais, c'est assez simple, ça c'est une question. Hier il y a eu des problèmes de linguistique, ça je sais répondre, c'est paramagnétisme. C'est le même. On enlève le E, on met l'accent et voilà.
Pourquoi pris para, ça ne me parle pas. Mais...
Et dia, ça vous parle davantage? Non, le problème, enfin, on pourrait longuement développer l'origine des termes scientifiques, mais je vous ai donné des noms, par exemple, d'orbital 1s, 2p, etc. Ça vient, par exemple, de la spectroscopie, sharp, diffuse, principal, etc. Et à un moment donné, bon, on a utilisé para pour un phénomène donné, sans que désormais l'origine en soit, bon, soit présente dans la tête des gens qui l'utilisent. Nidia.
Bonjour. Je veux juste savoir si les plans de symétrie ou les centres de symétrie ont un effet sur le caractère magnétique des molécules. Merci.
Oui, la symétrie, c'est effectivement un des ingrédients les plus importants dans les molécules. Surtout parce qu'il faut penser qui dans un amont moléculaire ou dans les molécules amont, on a toutes les molécules qui sont exactement égales l'une à l'autre. Quand on fait, par exemple, on dépose des nanoparticules sur une surface, ils ne sont pas exactement tous égales l'une à l'autre. Ici, nous, vraiment, c'est comme mettre des briques de Lego et on peut terminer les Lego seulement dans une certaine manière, sinon il reste pas debout. Et la symétrie, c'est très important, et c'est effectivement sous la symétrie que ça joue l'effet de pouvoir écrire et garder l'information en même temps. C'est, oui, très important. Mais...
Moi, je répondrais en disant que l'influence de la symétrie sur les propriétés magnétiques est énorme, pas seulement lorsqu'on a des champs magnétiques qui se promènent comme ça en hélice, mais fondamentalement, le principe de Pauli nous dit qu'on peut contrôler si... Un électron, deux électrons, deux moments magnétiques se mettront parallèles ou antiparallèles par le jeu des orbitales. Et le jeu des orbitales, avec lequel on a joué toute la soirée, c'est précisément un jeu de symétrie. La symétrie est fondamentale. Il y a des orbitales qui sont symétriques, antisymétriques, plus, moins, et puis ensuite les orbitales d'essai, plus, plus, moins, moins. Et donc ici, la symétrie joue un rôle considérable, un, dans la liaison chimique et dans son antagoniste, si on veut, le magnétisme moléculaire. Extrêmement important, la symétrie.
J'ai une question là. Oui, là.
Oui, bonsoir. Ma question, c'est, on a vu hier que le stockage numérique est devenu dynamique. Mais est-ce qu'on a pensé aussi à faire de l'électronique moins chaud, qui chauffe moins?
Alors, ni l'un ni l'autre, nous sommes ingénieurs. Est-ce qu'on a pensé à faire de l'électronique qui chauffe moins? Je pense que c'est désormais, au niveau des technologies du silicium, qui a encore de beaux jours devant elle, c'est l'un des problèmes, effectivement, la dissipation d'énergie qui est importante, et c'est l'une des questions technologiques clés. Nous, on est très très loin de ce genre de questions pour l'instant. C'est de la chimie et de la physique très très fondamentales que nous vous avons présentées aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des ingénieurs qui y réfléchissent. Dans la fameuse loi de Moore, cette loi exponentielle qui dit que bientôt il faudra que les molécules prennent le relais, et on essaye, eh bien, c'est l'un des problèmes technologiques importants. Et beaucoup de gens y réfléchissent, à la fois dans les laboratoires et dans l'industrie.
Bien, ben nous allons en rester là, et on va remercier Roberta Sessoli et Michel Verdaguer. Merci.